L'invité du jour.
À l'occasion de la centième de C'est Ludique, mercredi en ce début de semaine, nous allons parler de jeux de société. Mais je ne vais pas vous faire des présentations de jeux, mais on va parler du secteur culturel un petit peu oublié par le gouvernement avec Yannick Peignard, qui est mon invité, gérant du magasin Le Temps d'un Jeu à Langueux, qui fait partie du groupement des boutiques ludiques. Bonjour Yannick et merci d'être sur Millennium.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu ce qu'est le groupement de boutiques ludiques ?
Ce sont des boutiques qui vendent du jeu de société, hein, qui conseillent du jeu de société, qui se sont regroupées il y a quelques années, déjà pour pouvoir construire ensemble une sélection des ludicaires. Donc ouais. C'est l'équivalent d'un catalogue, hein, qui sort une fois par an.
D'accord.
Avec des jeux conseillés, et puis aussi se sentir un peu moins seul. Enfin, il y a des boutiques dans lesquelles il y a plusieurs personnes qui travaillent, mais il y a quand même beaucoup de boutiques, dont la mienne, où les personnes sont toutes seules et des fois se retrouvent confrontées à des problèmes, et c'est bien de pouvoir aussi en parler à d'autres personnes, voir si d'autres personnes ont eu déjà les mêmes problématiques, si elles ont déjà trouvé des solutions. Donc c'est aussi vraiment le côté associatif, mais dans le sens on fait des choses ensemble et on partage ensemble qui a donné vie à ce groupement à la base. Donc maintenant c'est un groupement qui, alors l'année dernière, regroupait un peu plus de 150 boutiques.
D'accord.
À la fois en France, mais aussi un petit peu à l'étranger, donc Suisse et Belgique. Cette année, je pense qu'on devrait atteindre les 170 boutiques. Donc ça commence à représenter pas mal de monde. Et puis, c'est vrai que maintenant, on est devenu un acteur, assez privilégié dans la discussion avec soit les éditeurs, soit les distributeurs, pour essayer de mettre ensemble des événements communs,
ouais.
Ou soit tout simplement dans les relations commerciales, hein. On va pas se mentir.
Bah non, c'est sûr. Alors vous avez fait un communiqué dernièrement, le milieu du jeu n'est pas reconnu dans le secteur de la culture, vous souhaitez alerter un petit peu les autorités ?
Complètement, parce que quand on en parle à nos clients, pour eux c'est une évidence que le jeu de société est un produit culturel au même titre que tous les autres, ils se posent même pas la question, et quand on leur apprend que ça ne l'est pas, ils tombent un peu dénus. Alors, c'est pas juste la reconnaissance parce qu'on veut une reconnaissance, ça va au-delà de ça. Derrière un jeu de société, il y a bien entendu des gens qui vont travailler, il y a des auteurs, il y a des illustrateurs, et toutes ces personnes-là aujourd'hui n'ont pas vraiment de statut en France. Autant un écrivain a un statut, un auteur de bande dessinée ou un dessinateur de bande dessinée a un statut. Alors je dis pas qu'ils vivent correctement, loin de là, mais ils existent.
Ouais.
Un auteur de jeu de société en tant que tel n'existe pas.
Ouais.
Alors habituellement, c'est déjà très problématique, mais dans la période dans laquelle on est depuis un an, c'est catastrophique pour certains. Étant donné qu'ils ne sont pas reconnus, ben ils n'existent pas, donc ils ont le droit à rien en fait.
Ouais.
Donc ça peut, pour certains, ça amène à des situations catastrophiques. Alors pour nous, c'est vrai que c'est naturel, parce que nous travaillons le jeu de société comme un produit culturel, parce qu'il y a des gens derrière. Petite anecdote, quand je vais dans une librairie et que je vais chercher un livre,
ouais.
Je dis toujours, je voudrais tel titre de tel auteur.
Ouais.
C'est évident qu'on va faire comme ça. On n'arrive jamais avec le code-barre, avec l'ISBN. c'est pas comme ça qu'on fait. Dans le jeu de société, on arrive dans une boutique, on dit « je voudrais tel jeu ».
Oui.
Oui, mais derrière, il y a aussi des auteurs.
Ouais.
Donc après, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas connus, mais il y a des auteurs derrière. Et c'est vrai que c'est... Alors, peut-être pas le client va pas venir comme ça, mais dans nos communiqués officiels, à chaque fois que maintenant on parle d'un jeu, il faudrait faire attention à citer systématiquement les auteurs. Parce que sans eux, le jeu n'existe pas, tout simplement. C'est pas nous qui créons les jeux, ce sont pas les distributeurs, ce sont même pas les éditeurs où ils le mettent en forme. Mais sans auteur derrière, il y a pas de jeu, tout simplement, quoi.
Alors, on disait que le jeu n'était pas reconnu au niveau de la culture, et pourtant, s'il y a bien un secteur qui a fonctionné pendant le confinement, c'est le jeu de société.
complètement. Alors, pendant le confinement et après. Alors, moi, j'avoue que pendant le premier confinement, j'avais pris la décision de ne rien faire pour... Pour des raisons un peu... on était au début de l'épidémie, je voulais pas en rajouter, enfin bref. Mais j'ai décidé de ne rien faire. J'ai des confrères qui ont travaillé, qui ont fait de la livraison à domicile, qui ont fait de l'envoi. Et effectivement, ça a très bien fonctionné, puisque les gens avaient envie de s'occuper, tout simplement. Ouais. On se sont dit, on va être coincé pendant un peu de temps. On a vite fait le tour de nos jeux classiques qu'on a à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour renouveler un petit peu, quoi. Et puis, à la sortie du premier confinement, il y a aussi eu une explosion. Ça s'est vraiment pas arrêté l'année dernière, on va pas se mentir. Le jeu de société est un secteur qui a bénéficié de la situation. Alors, je dis volontairement pas profiter parce qu'on n'y est pour rien. Ouais. Et dans la notion de profiter, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu péjoratif, mais par contre, on en a bénéficié. On va pas se mentir. Il y a plein de gens qui ont découvert ou redécouvert le plaisir de jouer ensemble et aussi le jeu de société moderne. Alors, jeu de société moderne, c'est ce qui est sorti en gros les 25-30 dernières années, en opposition, mais avec tout ce qui est jeu traditionnel type échec dame et puis les jeux classiques type Monopoly
Trivial Pursuit. Ouais.
Exactement. Et donc, les gens ont découvert la richesse, la diversité, l'énormité de référence que représente le jeu de société moderne. Les gens qui ne le connaissent pas, quand ils arrivent dans une boutique, on le voit tout de suite à leur tête, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais rien, en fait. et c'est assez marrant. Et c'est là aussi que c'est intéressant pour nous, ludicaires, d'aller discuter avec eux, et puis de leur expliquer tout simplement ce que c'est. Et puis moi je vois aussi des gens qui me disent moi le jeu de société j'aime pas ça.
Ouais.
Et quand on creuse un peu, c'est ils aiment pas ça parce que ils ont vécu des parties de Monopoly qui duraient des heures et des heures et des heures. Ouais. Alors petite parenthèse, généralement quand ça dure des heures et des heures, c'est parce qu'on a trafiqué les règles. Mais... Je ferme la parenthèse, mais et c'est vrai que les gens ont un souvenir du jeu de société qui leur a pas plu. Or, maintenant, avec la diversité qui existe, je pense que tout le monde peut vraiment trouver un jeu qui peut lui convenir. Parce que il y en a vraiment pour tout le monde.
C'est ça.
Pour toutes les thématiques, pour toutes les mécaniques, pour toutes les durées de partie. On veut faire un jeu de 10 minutes, ça existe maintenant. On veut pas investir beaucoup, des jeux à 10 €, il y en a, mais beaucoup, beaucoup. Donc il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Moi, j'ai vu mon voisin qui est arrivé il y a 2 ans près de chez moi, qui m'a dit « moi j'aime pas ça les jeux de société parce que je joue avec mon frère, il me fait jouer des jeux que j'aimais pas, c'était des gros jeux de stratégie ». Ok, je l'ai invité une fois à la maison, on a fait plutôt des jeux d'ambiance type Time's Up, et il s'est éclaté. Ouais. En fait, voilà, chaque joueur peut trouver, chacun peut vraiment trouver chaussure à son pied dans le jeu de société maintenant.
Et même les parents qui jouent avec leurs enfants, il faut se dire qu'il y a d'autres jeux qui existent que ce qu'on retrouve dans les supermarchés.
Ah oui, il y en a plein.
Il y a justement énormément de sorties chaque année, un peu comme les livres. Est-ce que c'est compliqué de faire des choix, vous, en tant que boutique, mais aussi les clients quand ils viennent et qu'ils vous demandent de conseils?
Alors, les deux peuvent être compliqués. C'est encore plus compliqué. Alors, pour nous, cette année, c'est très compliqué parce que d'habitude, on a des festivals professionnels,
oui,
des journées de formation, des journées de présentation, et cette année, on n'a rien de tout ça. Alors, les éditeurs essayent de faire comme ils peuvent, donc ils essayent de nous proposer des vidéos pour découvrir des jeux en avant-première, mais c'est pas tout à fait pareil quand même.
Ouais.
C'est pas tout à fait pareil. On n'a pas le plaisir de se retrouver, de pouvoir échanger, voir les petits détails. Enfin voilà. Donc la sélection peut être compliquée. D'habitude, elle est compliquée, mais pas autant. Après, au bout d'un moment, on connaît les habitudes de nos clients. On sait aussi ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. C'est sûr qu'un jeu qui nous plaît, on a tendance à beaucoup plus facilement le mettre en avant qu'un jeu qui va moins nous plaire. Et puis nos clients commencent à savoir ce qui peut marcher avec eux, ce qui peut ne pas marcher avec eux, parce que on a chacun des typologies de clients complètement différents.
Ouais.
Moi, je sais que j'ai des jeux typés experts, mais j'en ai pas beaucoup. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que ma clientèle est moins orientée vers ce type de jeu. pas grave, on s'adapte. Moi, je sais que quelqu'un qui me demande quelque chose de très spécifique que je n'aurais pas, je vois si je peux le commander, ça pose pas de soucis. Mmh. Après, pour nos clients, alors on a les habitués qui, eux, se renseignent, sont déjà beaucoup sur les sites d'information, qui savent généralement assez précisément ce qu'ils veulent. À la rigueur, ils nous demandent le petit détail en plus pour être sûr que, voilà, ça, ils se trompent pas. Et puis, il y a la majorité des clients que j'ai, souvent, ils me disent, je veux un jeu, et puis à moi de creuser. Donc, souvent, je vais leur demander, pour quel âge? Est-ce qu'il y a des enfants dans le lot et quels âges ils ont? Pour combien de joueurs? Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont limités à 4 joueurs. Dès qu'on augmente le nombre de joueurs, on va très facilement partir sur du jeu un peu plus rapide, des jeux d'ambiance. Après, il y a aussi les jeux qu'ils aiment et pourquoi ils les aiment, tout simplement. Ça, c'est assez difficile généralement pour eux à répondre à ça. Pourquoi ils aiment tel jeu? Je sais pas, j'aime bien y jouer, quoi. Mais à nous de creuser, quoi. C'est ça fait partie de notre métier et de tout le cœur de notre métier, en fait, et d'échanges. Moi, clairement, pendant les périodes où je fais du drive, donc là, ce mois d'avril et puis le mois de novembre dernier, ok, je vends un peu de jeu, mais j'ai pas l'impression de faire mon métier, quoi.
Ouais,
mon métier, pour moi, c'est de conseil, quoi. C'est essayer de trouver le jeu qui convient à la personne en fonction des critères que cette personne m'a donné. Essayer de lui faire découvrir peut-être quelque chose dans un style un peu différent de ce dont elle a l'habitude. Et puis, je vais pas dire je me trompe pas. Des fois, j'ai des clients qui reviennent et disent le jeu, il est bien, mais... J'ai pas trop aimé, quoi, parce que c'est moins mon type de jeu. Ça nous arrive de nous tromper.
Oui.
Le top, c'est quand les gens reviennent en disant, ça, c'était trop génial. Merci, quoi. Là, on se dit, je suis à la bonne place. C'est pour ça que je fais mon métier.
Alors, le 19 mai, hein, c'est la réouverture des commerces. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez rapidement ce terme essentiel, pas essentiel, livres et jeux vidéo essentiels, pas les jeux et les jouets?
Alors... Le terme essentiel tel qu'il a été souvent prononcé pour moi est un petit peu, je le trouve très péjoratif et un peu dégradant pour tous ceux qui n'ouvrent pas.
Ouais.
Parce que, le essentiel, alors si on pousse le terme essentiel, c'est qu'est-ce qui va être nécessaire pour vivre. À titre personnel, je fréquente assez peu les grandes surfaces. Pour moi, quelque chose d'essentiel, ça serait à la rigueur les primeurs, les maraîchers, tous ceux qui sont sur les marchés, et à la rigueur tous ceux qui vendent des trucs un peu moins qualitatifs, on va dire, dans les grandes surfaces. Pour moi, ça serait moins essentiel. C'est pour ça, ce curseur, on peut le mettre un peu où on veut. Ça va dépendre beaucoup des personnes. Après, je comprends pourquoi je suis pas ouvert. Je sais que j'ai certains confrères qui ont un peu plus de mal à comprendre ça, tout simplement parce que effectivement, il y a des disquaires qui ouvrent, il y a des libraires qui ouvrent, il y a des magasins de jeux vidéo qui ouvrent.
Oui.
En quoi sont-ils plus importants que nous? Là, je serais bien incapable de le dire, à part qu'ils ont peut-être des lobbies un peu plus importants. Si on parle vraiment politique, je pense qu'ils ont des soutiens que nous n'avons pas encore. C'est aussi bête que ça, et aussi parce que ils sont définis comme produits culturels, ce que nous ne sommes pas.
C'est ça, et c'est bien ça le problème pour le jeu de société. Alors, surtout que le jeu de société, on l'a vu, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, pendant le confinement, ça a finalement remplacé le cinéma, ça a remplacé le théâtre. On a l'impression aussi même que les magasins de jouets ou les grandes enseignes ont compris le boom du jeu de société avec des rayons qui s'agrandissent. Je l'ai vu encore dernièrement dans un magasin de jouets où il y a un rayon qui a été complètement remplacé et c'est le jeu de société qui a pris toute la place.
C'est pas étonnant parce que le jeu de société, c'est un secteur depuis ces dernières années. Alors petit à petit, il ne fait pas trop parler de lui, sauf depuis l'année dernière. Mais il ne faisait pas trop parler de lui, mais c'est un secteur qui ne fait qu'augmenter. En fait, il n'y a pas de pic pour l'instant. Enfin, il n'y a pas de creux. Il n'y a pas eu de pic à une redescente derrière. Pour l'instant, ça ne fait que qu'augmenter en termes de vente, de chiffre d'affaires, doucettement, mais sûrement. Ce qui n'est pas forcément le cas du jouet. Le jouet connaît un peu une décrue ces dernières années. Pas forcément une dégringolade, mais quand même une décrue. Ce qui est pas étonnant après que les magasins de jouets essayent d'avoir des rayons plus étoffés en jeux de société. C'est tout à fait compréhensible.
Et c'est peut-être
après,
le fait
société...
Pardon, et ouais, c'est peut-être le fait aussi qu'un groupe comme Hachette, qui rentre petit à petit dans le jeu en rachetant des éditeurs et distributeurs, change un petit peu la donne aussi pour concurrencer Asmodée.
Alors, ça va avoir certainement des conséquences à terme, lesquelles je serais bien incapable de le dire, parce que quand le rachat, en fait, donc Hachette a racheté le numéro 2 et le numéro 3 de la distribution des jeux de société en France, ça s'est fait l'année dernière. Donc, c'est encore assez récent. On n'a pas encore assez de recul pour voir un véritable effet. Au départ, on attendait, nous, clairement, ce qui nous inquiète peut-être un peu plus, c'est le changement de direction au niveau d'Hachette.
Ouais.
Parce que l'ancien PDG qui voulait quand même avoir une émulation, parce que Hachette, ça a toujours été ça. Ils ont eu plusieurs sociétés dans le livre, en tout cas, qui étaient clairement concurrents, et ils les laissaient volontairement en concurrence. Ils les fusionnaient pas, ils les laissaient en concurrence parce qu'ils estimaient que ça donnait une émulation plutôt saine pour aller toujours à la recherche de la qualité. Et nous, dans le jeu de société, on s'est dit, bah chouette, ça va être la même chose. Or, a priori, la nouvelle direction serait peut-être un poil moins dans cette optique-là. Ah. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Après, clairement, bon, je suis pas dans les petits papiers d'Asmodée, hein, mais c'est inévitable que eux, ça va les inquiéter parce que ils étaient le numéro 1 et de largement loin. Oui. Le numéro 2 et le numéro 3 sont rachetés par le même grand groupe. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en commun. C'est sûr, moi je serai Asmodée, je me poserai des questions. Je ne sais pas si j'aurai peur, mais je me poserai quand même beaucoup de questions parce que ça peut donner un concurrent plus que très sérieux, quoi. Donc après, est-ce que Hachette pourrait avoir un poids dans la... Je reviens sur le côté culturel pour faciliter cet accès à cette reconnaissance. Alors entendons-nous bien, certains parlent systématiquement de TVA, de baisse de la TVA pour l'amener à 5,5, parce que produit culturel. Il faut juste se rappeler que le seul produit culturel en France qui bénéficie de cette TVA réduite, c'est le livre.
C'est le livre,
ouais. CD, les jeux vidéo, les DVD n'en bénéficient pas du tout. Donc il n'y a pas de raison...
Que ça change là-dessus.
Que ça change et que même pour nous, ça change grand-chose. On a des jeux de société en TVA 5,5, mais c'est vraiment assez marginal. C'est souvent parce que ça ressemble beaucoup à un livre. Mais effectivement, peut-être que cette entrée de Hachette dans le monde du jeu de société pourrait peser dans cette reconnaissance. Alors, notre communiqué qui a été initié par le groupement des boutiques ludiques, mais qui a été relayé et co-signé par l'AUEJ, donc l'Union des éditeurs de jeux, par la SAGE, donc la Société des auteurs de jeux. Je risque d'en oublier.
Les cafés ludiques.
Il y a le réseau des cafés ludiques, effectivement. Nous ont rejoint un petit peu après l'association des ludothèques de France.
Ouais.
Et je crois aussi La Ruche, donc qui est une association de création de festivals. Donc tous ces acteurs-là, on va essayer d'aller quand même dans un sens commun. Et ce premier pas, ça a été c'est un peu peut-être le point fédérateur, ça a été ce communiqué. Qui a été relayé donc par beaucoup, qui a été envoyé à des députés. Il y a certains députés qui commencent à s'intéresser au sujet et qui vont peut-être le remonter un petit peu plus haut. Donc c'est déjà un premier pas. On sait que ça risque d'être un travail de longue haleine, mais mine de rien,
il
commence peut-être un petit peu à bouger. Déjà, c'est un grand premier pas qui est très très bien.
Une dernière question. S'il fallait choisir trois coups de cœur de ce début d'année, les gens y rentrent dans votre boutique, les trois coups de cœur de ce début d'année, ce serait lesquels ?
Alors, j'aurais tendance à dire, ça dépend quel jeu ils vont choisir. Mais si je dois prendre mes coups de cœur à moi...
Voilà, on va dire ça.
mon plus gros coup de cœur ces derniers temps, ça s'appelle Gorinto.
Gorinto, de Super Meeple, ouais, excellent.
De Super Meeple, voilà. Alors moi, j'adore les jeux abstraits de ce type-là. Donc pour ceux qui connaîtraient, qui nous écouteraient, on va être dans la même catégorie de jeux, même si ça n'a rien à voir, mais la même catégorie de jeux d'un Azul, par exemple. Il est absolument génial. Grosse possibilité de parties différentes. Mais faut aimer les jeux abstraits.
Faut aimer, ouais.
Mais excellent, vraiment excellent, super simple à apprendre, comme tout bon jeu abstrait se doit de l'être. Il est quand même très simple à apprendre, mais il fait bien fonctionner les neurones.
Ouais, mais on en avait pas. Pour ceux qui connaissent pas ce jeu-là, j'en ai parlé avec Charles Amir Perret de Super Meeple début mars.
Ouais, ben bon choix. autre chose, alors qui est sorti un petit peu, ouais, qui est vraiment du petit jeu, Mot Malin.
Ah.
Mot Malin de chez Blue Orange.
On est d'accord, on ne s'est pas concerté, hein, puisque j'ai l'auteur mercredi en direct pour parler de Mot Malin.
Alors oui, je confirme, on ne s'est pas du tout concerté, mais ce petit jeu est vraiment excellent. Il est malin comme tout. Il y a un petit côté
Connems,
ouais, avec un petit côté bataille navale derrière. Il est vraiment excellent et il s'apprend en deux minutes, on sait jouer. Mais après, pareil, il va faire cogiter parce que les associations mots sont complètement différentes à chaque partie et des fois il y a des trucs on se dit mais c'est juste pas possible, qu'est-ce qu'il faut que j'ai trouvé. C'est vrai, il va falloir être malin quoi pour trouver la bonne association d'idées. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire en troisième? Le problème c'est que je suis quelqu'un de très visuel et j'ai pas mes jeux sous les yeux.
Bah, déjà deux là c'est très bien, les deux là.
Ouais, franchement ces deux là ils sont top. Après alors peut-être il n'est pas sorti en début d'année. Il est sorti en fin d'année dernière. Mais si vous n'avez pas testé Micro Macro Crime
Scene... Ah bah oui, c'est l'as d'or.
C'est l'as d'or. Mais même avant qu'il ait l'as d'or, ce jeu a cartonné parce qu'il est original. C'est un jeu, en gros, de cherche et trouve, type Où est Charlie,
c'est ça, ouais.
Sur un grand poster. Mais on va devoir résoudre des enquêtes. Et les enquêtes, on va nous aider progressivement en nous posant des questions. Et on va devoir...
C'est un ovni ludique, on va dire, qui est arrivé l'année dernière. Il mérite forcément son as d'or.
Ah oui, oui, il le mérite amplement. Même s'il y avait de la concurrence.
Même s'il y avait top 10. Effectivement, il y avait top 10.
Même s'il y avait top 10.
Mais bon. Eh ben, en tout cas, c'était un plaisir, Yannick, de parler avec toi. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler prochainement.
Avec plaisir.
À bientôt. Au revoir. À bientôt.